Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec aujourd'hui Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Thomas Elexhauser, délégué national Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Bonjour à
Bonjour.
Vous. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et vous êtes également en charge du numérique.
Bonjour Valérie.
Bonjour. Et Fatima Elouazi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison et fondatrice de Politiquelle. Bonjour à vous.
Bonjour Valérie.
Merci d'être là. Et Gilles Gansman qui est là pour le zapping de la présidentielle. Gilles, on y passe.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Alors Gilles...
Bon Valérie et les amis, je ne vous le cache pas, la situation m'inquiète un peu et je me disais qui serait à la hauteur pour gérer un tel conflit, qui va pouvoir prendre ça en main, et Quotidien se posait la même question hier soir.
Qui gère ce qui se passe en Ukraine ? S'agit-il du président américain Joe Biden ? S'agit-il de l'OTAN à Bruxelles ? S'agit-il de l'Europe et de Ursula von der Leyen ? Ou s'agit-il de Volodymyr Zelensky depuis Kiev ? Non, bien plus haut. La crise en Ukraine se gère en sortant du salon de l'agriculture. Valérie Pécresse sort du salon.
À bientôt. Je filme occupé de l'Ukraine.
Valérie Pécresse est-elle en roue libre ?
Je filme occupé de l'Ukraine.
Elle le dit dans un soupir avec toute la charge des responsabilités qui l'incombent. Allez, je filme occupé de l'Ukraine.
Voilà, c'est vrai que l'image était, je ne sais pas si vous l'avez vu, était un petit peu ridicule pour la candidate. Vous l'avez vu ou pas,
oui.
Fatima ?
Oui, je l'ai vu ce matin par hasard. On m'a envoyé la vidéo.
C'est
risible, puis je pense que...
Mais tout, enfin, Valérie Pécresse, elle a pas en ce moment, c'est pas terrible pour elle, tout ce qu'elle entreprend...
Qu'est-ce qui est risible ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui est risible ?
Non, mais c'est le côté occupé de l'Ukraine, en sortant
de l'agriculture, je trouve que la salle est risible,
avec un côté portant le poids de l'Ukraine sur ses épaules...
Moi, j'ai pas vu la séquence en question, mais excusez-moi...
Il faut la regarder pour voir le caractère risible de la séquence.
Elle a réuni à son QG des personnes... dont on ne peut pas nier l'expérience et la solidité, pour parler de ce schéma. Peu
il
après avoir rencontré le
Pardon,
Premier ministre,
moi
j'étais pas à cette réunion.
Oui. Non, moi non plus, mais on n'en a rien sorti.
On peut pas reprocher à Valérie Pécresse, après avoir rencontré le Premier ministre. En plus, elle est partie du centre d'agriculture pour aller rencontrer le Premier ministre sur son invitation. Donc je ne vois pas en quoi cela est risible qu'elle puisse dire qu'elle va voir le Premier ministre à son invitation, tout comme l'étaient d'autres candidats à l'élection présidentielle, et derrière réunir les anciens ministres des armées et affaires étrangères qui ont compté les gouvernements de la droite et du centre.
Thomas Elexhauser, la question, vous n'étiez pas à cette réunion, je n'y étais pas non plus, mais qu'en est-il sorti ? On n'a pas eu de communiqué, on n'a pas eu de conclusion de cette rencontre. La mise en scène était, pardon de le dire aussi, un peu risible, cette grande table avec cette pauvre nappe, ce pauvre drap blanc.
Si je m'en étais occupé, ouais. Je pense que j'aurais fait les choses autrement sur la mise en scène, bien évidemment.
C'était grotesque.
Puisque c'est mon métier de mettre des choses en scène. Mais sur le fait qu'elle a autour d'elle des gens de talent, de conviction, qui ont une expérience, qu'elle les réunisse après une rencontre avec le Premier ministre, je ne vois pas du tout en quoi cela est ridicule.
Non, mais c'était le ton sur lequel elle a dit je m'occupe de l'Ukraine, où on avait l'impression qu'elle était investie d'une mission. Je pense que c'est l'image. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Samuel Lafont.
C'est que, objectivement, dans toutes ces dernières sorties médiatiques, elle fait un flop. On l'a vu en Normandie avec les agriculteurs, ça a fait un bad buzz, où en fait elle n'écoutait pas du tout l'agriculteur qui lui parlait. On l'a vu également sans l'agriculture pour cette séquence-là, mais également lorsqu'elle devait conduire un tracteur où elle n'a pas su conduire ce qu'elle devait faire, puis elle expliquait qu'en fait c'était plus simple de conduire un tracteur que de diriger la France, mais elle n'arrivait pas à conduire le tracteur quand même. Enfin bref, elle enchaîne les mauvaises séquences et je pense véritablement qu'elle est vue plus haut que ce qu'elle n'est véritablement. Et cette élection me fait penser à l'élection des européennes, vous savez, où il y a beaucoup de gens chez LR qui pensaient que Bellamy, avec tout le respect que je peux avoir pour Bellamy par ailleurs, serait très haut. Et tout le monde les expliquait chez LR que Bellamy serait très haut, qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il ferait un grand score. Et en fait, il a fini très bas. Et en fait, les gens sont mentis eux-mêmes.
La candidature crédible d'opposition à Emmanuel Macron se prenne les pieds dans le tapis et qu'elle s'effondre. C'est l'objectif à la fois de En Marche, c'est l'objectif à la fois de la droite extrême et nationaliste. C'est de se dire qu'il n'y a pas d'opposition républicaine solide face à Macron, parce que derrière, ça vous permettra d'avoir davantage d'heures d'audimat entre les deux tours pour pouvoir vous exprimer.
Le sujet, c'est qu'il n'y a pas d'engouement populaire.
J'aurais que Nicolas Corato nous dise ce qu'il en pense.
Oui, moi je partage, effectivement la forme elle n'est pas maîtrisée. Après, est-ce que c'est vraiment le sujet ? Est-ce qu'on en est à, à analyser la communication des candidats les uns par rapport aux autres. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir quels sont les candidats qui se rangent dans le camp de la raison et ceux qui poursuivent dans l'erreur.
C'est le fond qui m'intéresse. On va en parler.
Non, mais c'est pour ça qu'on peut rire parfois du comportement, parfois non maîtrisé, de Valérie Pécresse, mais lui reconnaître que sur le sujet de l'Ukraine, et notamment sur le sujet des relations avec Vladimir Poutine, elle a toujours été d'une cohérence exemplaire, contrairement à d'autres qui se sont complètement trompés. Donc moi, je veux pas épiloguer sur la nappe ou sur sa sortie au salon de l'agriculture, mais j'aimerais que sur un sujet aussi sérieux, on regarde les choses sérieusement et on regarde les choses aussi dans l'intérêt général de notre pays. Oui. Et je pense qu'il y a aujourd'hui à la présidentielle des candidats qui sont dans le camp républicain et dans le camp européen, et puis ceux qui sont dans le camp de Poutine.
On va en reparler, évidemment. Gilles, continuez les appuis.
Enfin, elle a quand même fait ça parce qu'il y avait 6-7 caméras et c'était du genre, quand même, je suis concerné, et que c'était de la communication, justement. Et justement, toujours dans de la communication, bon, ça ne m'a pas rassuré non plus par rapport à tout ce qui se passe. Anne Hidalgo, elle, communique sur le fait qu'elle a eu le maire de Kiev qui lui a téléphoné. Oui, à elle, à Anne.
Il m'a dit, Anne, dis-leur en France qu'il ne faut pas nous abandonner. Il faut que vous soyez avec nous. Il faut que vous soyez là. Je lui ai dit tout notre soutien. Je lui ai dit tout ce qui était en train de s'organiser, les débats, comment ici, la classe politique, comment l'Europe était à leur côté et aussi prenait ce sentiment d'appartenance à l'Europe qu'il porte avec une telle force que ça nous touche. Il a conclu tout à l'heure en me disant... peut-être demain il sera trop tard.
Bon, on continue.
Et oui, et alors, chacun voit évidemment cette crise à son niveau dans les médias. Je fais un zapping médias et politiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une communication de la Maison du Caviar qui s'inquiète, les passionnés de l'Eurovision qui s'inquiètent. Et puis, il y a eu hier la sortie de Daniel Riolo qui, lui, sur Radio J, s'est demandé... Est-ce que les entraîneurs russes qui entraînent des équipes de notre championnat, comme c'est le cas avec Monaco, doivent continuer à entraîner nos équipes?
Les joueurs de Monaco doivent dire « je ne joue plus dans ce club parce qu'il est dirigé par un russe ».
Mais ça, on l'a déjà vu, ça? Tu l'as déjà vu quelque part?
Non, on l'a pas vu.
Ça serait inouï, hein, comme...
Attends, tu te rends compte? Sinon, ça fait des bouquins dans 50 ans, comme justement les Ukrainiens qui avaient été massacrés par les nazis, ou c'est maintenant qu'il faut agir.
Mais Daniel, tu te rends compte?
C'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant que tu dois faire remarquer qu'il se passe des choses.
Moi, les joueurs de Monaco devraient se mettre en grève parce qu'ils sont dirigés par un oligarque russe.
Moi, en ce moment, si je sais que l'oligarque en question est proche du pouvoir...
Alors, mais voilà, Daniel, ça, c'est important.
Si le patron de Monaco vient dire je ne soutiens pas le conflit. Je dis ok, je joue pour toi. Mais en tout cas, moi, je vais en avoir le carnet.
Oui, c'est pas l'entraîneur, c'est le propriétaire du club.
Je dis l'entraîneur, le propriétaire.
C'est le propriétaire qui est russe. Donc c'est là où. Alors, on se posait la question justement ce matin de savoir jusqu'où on va dans les condamnations, c'est-à-dire les chefs d'orchestre, l'Eurovision, on a exclu la délégation russe. On voit qu'au Festival de Cannes également. Les délégations russes sera exclue. Est-ce que on s'est vraiment posé la question avant, est-ce que c'est une bonne chose d'aller dans tous les domaines pour faire pression sur la Russie?
Peut-être Valérie, un point d'information qui a été passé sous silence dans l'actualité très, très fournie, dire que Monaco, la principauté de Monaco, et c'est important, s'est alignée sur les sanctions économiques de l'Union européenne.
On l'a dit hier avec la Suisse. Hein.
Voilà, ce qui est quand même rarissime. Ouais. Donc, effectivement, la question de la situation du club de Monaco se pose, puisque normalement, le gel, les avoirs de cet oligarque devaient être gelés par la principauté. Et donc, ça pose une question également de management du club. Sur le reste, nous sommes dans une guerre économique, dans une guerre diplomatique, dans une guerre peut-être tout court. Ça s'appelle le patriotisme. C'est-à-dire que quand Valérie Gergiev, qui est un très grand chef d'orchestre russe, continue publiquement à soutenir le régime de Poutine et l'action de Poutine en Ukraine, ça me semble assez normal qu'on ne le reçoive pas à la Philharmonie.
Oui, le propriétaire du club monégasque s'appelle Dimitri Ribolovlev. Voilà. Et puis un dernier son, Gilles?
Oui, un dernier son hier, évidemment, de politique intérieure. Hier, Marine Le Pen était invitée de BFM et elle a lâché on ne peut plus dire bombe, mais une information. C'est foutu pour Marion, elle est partie avec l'autre.
les articles autour d'un possible ralliement de Mario Maréchal.
Enfin, c'est vous pouvez enlever possible.
Vers Éric Zemmour, oui, pour vous c'est fait, c'est réglé ça.
Oui, je pense que c'est
tactique, c'est une question de jour.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Elle vous a informé d'ailleurs ?
Non.
Du fait qu'elle franchissait le pas ?
Non, mais comme personne, je sais pas, j'ai changé de numéro de téléphone il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être ça en réalité.
Quand est-ce que vous avez parlé la dernière fois, Madame Le Pen ?
Non, mais ça vous regarde pas, ça, Madame Tadaïa, vous voyez, ça relève de ma vie personnelle. Vous voyez, il y a un moment donné, si vous voulez, où...
Ça nous intéresse dans la mesure où on parle d'alliance politique.
Eh bien, je suis heureuse que ça vous intéresse, mais vous n'aurez pas de réponse.
Et est-ce que ça vous attriste que Mario Maréchal rejoigne Éric Zemmour comme vous nous l'annoncez ce soir ?
Bah oui, ça m'attriste, bien sûr.
Voilà, c'est la fin du zapping. Évidemment, on va revenir sur l'Ukraine, la Russie, l'Europe entre dialogue et fermeté. Et puis Emmanuel Macron qui sera ce soir sur BFM pour une allocution, apparemment. Non, c'est pas ça, je me suis trompée.
Bah,
mercredi, mercredi à 20h. Bah, c'est aujourd'hui, mercredi.
Oui, c'est ça.
Oui, j'ai dit ce soir, j'ai dit quoi ?
Non, c'est
le. Bon, alors c'est pas ça. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Thomas Elexhauser, délégué national Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, et Fatima El-Ouazdi, adjointe au maire de Rueil-Malmaison et fondatrice de Politique Elle. Et donc on va parler évidemment de l'Ukraine, de cette Europe entre dialogue et fermeté, la guerre en Ukraine avec des conséquences évidemment sur la présidentielle. Donc le président de la République va s'adresser aux Français ce soir sur toutes les chaînes à 20h, pour parler de l'Ukraine, vraisemblablement également pour présenter sa candidature. Il lui reste normalement 24 heures pour le faire. En tout cas, ce soir à 20h. Parlons peut-être d'autres choses avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Fatima El-Ouazdi.
Je voulais parler d'un sujet qui m'est cher, c'est le service public des pensions alimentaires. Ouais. Pour changer un petit peu, pour pas parler tout le temps de la crise ukrainienne et pour regarder un peu ce qui se passe autour de nous et ce qui a été fait depuis 5 ans par le président de la République. C'est quoi le service public des pensions alimentaires ? Ça a été mis en place au début de ce quinquennat pour qu'à la suite d'un divorce, certaines familles monoparentales, souvent des femmes, ne perçoivent pas en fait la pension alimentaire qui leur est due après une séparation, et ça touche beaucoup de familles qui vivent en fait, qui tombent sous le seuil de la précarité parce qu'elles ne peuvent pas percevoir ce revenu. Depuis la mise en place de ce service public qui aujourd'hui a été étendu et systématisé, c'est une annonce qui a été faite hier par le ministre Olivier Véran, le ministre Éric Dupond-Moretti. On a depuis le début de l'année plus de 73 000 demandes d'intermédiation qui ont été faites auprès de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, l'ARIPA.
Ouais.
On a 100 000 familles qui ont bénéficié du recouvrement d'au moins une pension alimentaire. Donc maintenant, en fait, le processus avant cette systématisation, c'est que c'était le parent qui venait de subir un divorce ou une séparation qui faisait la demande à la CAF. Aidez-moi à percevoir cette indemnité. Et l'ARIPA faisait le nécessaire pour recouvrir la somme. C'était une sorte d'assurance qui était perçue en fait par les familles. Donc face à des accidents de la vie comme les séparations, c'est normal. Mais le problème, on se rend compte, c'est que par ailleurs, faire cette démarche-là, ça peut aussi être difficile parce qu'il y a le côté administratif, parce qu'aussi on a peur d'envenimer une relation déjà très tendue. Parce que du coup, ça revient à davantage judiciariser et processer la relation entre le papa et la maman dans certaines familles. Donc et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de systématiser cette saisine de la CAF pour que maintenant toutes les pensions soient systématiquement couvertes par l'ARIPA. Et c'est uniquement si les deux parents conjointement s'y opposent que ce ne sera pas fait. Donc pour moi, c'est une vraie avancée sociale pour les familles monoparentales de ce pays.
Nathalie nous dit « J'ai galéré pour récupérer ma pension alimentaire. J'ai dû mandater un huissier qui a pris fait et cause pour mon ex-mari. » Donc c'est vrai que c'est un progrès.
Moi, on connaît tous dans nos entourages des mères célibataires qui ont payé des avocats, qui ont eu des difficultés à recouvrir ces pensions alimentaires. Et ben voilà, on a un système qui fonctionne. et on a des familles qui vont pouvoir en bénéficier maintenant à 100%. C'est une vraie avancée sociale.
Voilà. Moi, juste avant de passer aux autres coups de cœur et coups de gueule, parce qu'on va parler de l'Ukraine, une pensée pour Shaina, cette jeune fille qui a été tuée, assassinée à Creil.
Horriblement.
Et elle avait été agressée sexuellement par des jeunes hommes qui avaient plus que des jeunes hommes. Ils avaient 13 ans à l'époque des faits. C'est toujours compliqué quand on n'a pas assisté au procès, mais enfin, il a été établi qu'elle a été agressée sexuellement, qu'elle a été violée. Ils ont pris du sursis alors que le procureur avait réclamé 3 ans de prison ferme. Eh bien, 12 mois avec sursis, ils ont accueilli ça dans la plus grande indifférence. Ils n'ont évoqué, ils n'ont prononcé aucun regret. Et voilà, bon, après, peut-être que le dossier n'était pas suffisamment complet. Je sais que Nicolas Corato, à chaque fois qu'on évoque des décisions de justice, c'est toujours compliqué, mais bon, on peut s'empêcher de voir, vu ce qui s'est passé par la suite, que la justice est...
Quand j'ai vu trois ans ferme, même 3 ans demandé, c'est très peu par rapport au viol.
Ouais.
Très peu, parce que viol,
c'est
un crime.
C'est un assassinat. Ouais.
Là, c'était précédent. Là, c'était quelque chose, c'était un viol collectif dans une cave.
C'est sur les agressions, et quand on lit l'histoire de Shaina dans le détail, on voit bien qu'il y a toute une omerta, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, il y a toute une omerta autour de la sexualité dans certains quartiers, et qui, malheureusement, vient en tuer des femmes, parce qu'on nie la sexualité de certains jeunes dans certains quartiers, parce qu'il y a des origines culturelles, parce qu'il y a des origines religieuses, et c'est ça qui est aujourd'hui insupportable, et il faut lever ces tabous. Ouais. Et ce qui m'a frappé quand on lit l'article, moi je me souviens avoir lu un papier du Monde absolument édifiant sur ce qui s'était passé, bien évidemment on peut que regretter cette décision de justice, parce que du sursis quand il y a des agressions sexuelles, en plus qui sont commises souvent par des jeunes, donc on peut pas dire que... Que c'est les jeunes, en fait, ils reproduisent déjà des schémas patriarcaux et sexistes et violents, et c'est juste regrettable
Ils ont été reconnus coupables d'agression sexuelle et de violence en réunion, condamnés donc à des peines allant jusqu'à un an de prison avec sursis, loin des 3 ans qui étaient 3 ans et demi qui avaient été requis. Et c'est vrai que cette jeune fille, on le rappelle, elle a été poignardée et brûlée par la suite. Alors pas par les mêmes, mais voilà, je voulais avoir une pensée pour elle ce matin, pour sa famille. Absolument. Nicolas Corato, un coup de cœur.
Oui, j'ai un coup de cœur parce qu'on parle beaucoup de l'Ukraine, on parle moins de ce qui se passe en Russie, en lien avec ça, et je voulais porter un coup de cœur pour les avocats russes qui exercent dans des conditions très difficiles, et sous la menace d'un État autoritaire, non démocratique, enfin je ne sais pas ce qu'en pense M. Zemmour, mais en tout cas non démocratique. Et un certain nombre de ces avocats, de manière très courageuse, ont publié une tribune demandant la cessation de l'invasion et de la guerre par la Russie à l'Ukraine, demandant le rétablissement de l'état de droit et demandant au Kremlin de se conformer au droit international. Ce ne sont pas n'importe quels avocats, ce sont parmi les principaux dirigeants des fédérations qui représentent les avocats en Russie, il y a plusieurs organisations, ce sont des grands pénalistes, ce sont des voix qui comptent en Russie et qui aujourd'hui, il faut le dire, voient leur vie menacée, leur exercice menacé de par cette prise de position. Et j'ajoute qu'il y a 3000 juristes qui font circuler actuellement une pétition que vous trouvez sur les réseaux sociaux où ils demandent également l'arrêt des hostilités et à Vladimir Poutine de retirer ses troupes d'Ukraine. Bref, on voit que on parle beaucoup du soutien à l'Ukraine et je pense que c'est très important. Il faut aussi ne pas oublier de soutenir en Russie les opposants à ce régime qui aujourd'hui se mobilisent et qui sont directement menacés dans leur vie, dans leur existence, leur famille également. Voilà, un coup de chapeau à ces gens qui ont beaucoup de courage et qui nous donnent parfois aussi des leçons de démocratie et de respect de l'état de droit.
Il y a Alexei Navalny qui vient de publier une série de tweets depuis sa prison en Russie en appelant justement les Russes à manifester prendre de grande ampleur pour justement dire non à cette guerre. Et oui, on peut saluer ceux qui se mobilisent en interne au péril de leur vie et qui se font emprisonner. Il y a plus de 7000 arrestations depuis le début de cette guerre de manifestants pacifiques en Russie. C'est quand même le signe.
Oui, c'est vrai qu'on a vu ces images à Saint-Pétersbourg et à Moscou. De gens extrêmement courageux, manifestants ou même plus discrètement déposant des fleurs sur certains monuments de ces deux villes, notamment Moscou et Saint-Pétersbourg, et qu'en effet c'est faire preuve d'un grand courage que de défier l'autorité du pays, les sanctions et les forces de l'ordre et de sortir dans la rue. Et donc en effet on peut se réjouir de du courage de certains Russes qui, connaissant ce qui se passe, parce que malheureusement, tous les Russes ne sont peut-être pas conscients de l'intégralité de la situation, ont pris leur courage en main.
Alors vous, votre coup de gueule, ça concerne plutôt la France?
Oui, mon coup de gueule concerne plutôt la France. On va parler de l'Ukraine tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas tout de suite. C'est sur cette absence de débat de fond que nous vivons dans cette campagne, qui n'en est vraiment pas une. Tout à l'heure, on parlait des sorties des uns et des autres du salon de l'agriculture. On a parlé ici et là, pendant des semaines et des heures entières, du Zénith de Valérie Pécresse ou du Mont-Saint-Michel d'Éric Zemmour.
C'est pas la même chose.
Je trouve que c'est vraiment regrettable qu'on soit uniquement sur des approches de fond. On ne parle que des tonalités de voix, des meetings, et absolument pas des propositions qui sont faites des uns et des autres. À la dernière élection présidentielle, nous avions beaucoup parlé de la dépense publique, du nombre de fonctionnaires, des réformes de l'État engagées. Là, nous sommes à 40 jours de l'élection et aucune proposition phare n'est soumise à controverse, n'est soumise à débat.
Si, je regrette
vraiment que... Oui, mais ça, c'était un coup monté grotesque qui est sorti en une des Échos, excusez-moi. Elle s'engage à faire une proposition d'augmentation de 10%. Et elle s'y engage, elle donne sa parole, qu'elle dit, moi, sous le mandat, j'ai augmenté 10%. Si certains patrons sont contre, ok, les Échos en ont fait leur une, mais tant qu'elle n'est pas élue et tant qu'elle n'est pas en capacité de mettre en mesure son application, on ne sait pas si elle pourra tenir ou pas sa promesse. Le chef de l'État, Macron, excusez-moi, avait promis de supprimer 150 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat, il n'en a fait aucun. Donc je reviens sur le terme de mon... Je reviens à l'absence de débat de fond. Valérie Pécresse a par exemple proposé qu'une année d'études supplémentaires soit faite aux étudiants en médecine pour aller dans des zones rurales ou dans les zones les plus en difficulté en tension médicale. Voilà, ce sont des propositions. Je ne sais pas quelle est la proposition de M. Zemmour là-dessus, mais j'en appelle à ce qu'on revienne à des propositions sur l'avenir de notre école, l'avenir de notre économie, les sujets énergétiques dans cette campagne.
Votre candidate n'est pas...
Et je n'invective personne.
Non, mais votre candidate n'est pas la dernière non plus à faire des petites phrases et aller sur le terrain. Je vous ai évoqué hors antenne le communiqué de presse d'Othman Nasrou hier c'était plus qu'un tweet, hein. Il y avait les deux. Il y a eu un communiqué de presse qui moque Marine Le Pen, qui a jeté à la poubelle 1,5 million de tracts parce qu'elle était en photo avec Vladimir Poutine. C'est pas d'un très haut niveau non plus.
Chaque fois que Valérie Pécresse a eu à s'exprimer pendant cette campagne, elle l'a fait sur des sujets de fond. Quand elle a été face à BFM, quand elle a été dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, dont on avait déjà parlé sur ce plateau, elle a été face à des propositions. Elle a fait son programme. Elle déroule son programme avec les semaines passantes.
Peut-être Samuel,
le problème, on a eu de Valérie Pécresse comme d'autres candidats, c'est qu'en fait, ils ne sont pas audibles. Ils ont du mal à se faire entendre. Et la réalité, c'est que, avec Éric Zemmour, on demandait des débats. On demande à Emmanuel Macron d'entrer dans l'arène avant qu'il y ait cette crise ukrainienne. On le demandait déjà. Et le fait est qu'il y a des programmes. Vous allez sur le site d'Éric Zemmour, Zemmour2022.fr. Vous allez voir le programme d'Éric Zemmour qui est très précis, qui est chiffré. Le problème, c'est que là, il va falloir être audible et que tous les candidats qui n'ont pas réussi à avoir de stratégie pour être, notamment de stratégie numérique pour être audible, eh bien là, ils sont inaudibles et clairement, on n'entend plus que parler de la guerre et de la crise ukrainienne.
Attendez, Nicolas Corato.
Non, mais c'est débat intéressant fond, ce que vous dites parce que ça fait un moment qu'on est plusieurs à plaider pour le débat de fond et qu'on voit que on a perdu beaucoup de temps sur des faux sujets qui se retrouvent d'ailleurs complètement démentis par l'actualité et la géopolitique. Donc il est temps de revenir sur des vrais sujets. Mais on en reparlera par rapport à l'Ukraine. Sur les débats de fond, moi c'est pas anecdotique l'histoire des tracts de Madame Le Pen.
Non.
Alors, vous voyez, moi j'ai pas de candidat malheureusement à gauche, donc je suis pas en campagne, donc je suis assez libre de ma parole. Je vais même défendre Valérie Pécresse pour une deuxième fois au cours de notre émission, ce qui n'est jamais arrivé. Mais c'est pas anecdotique de rappeler que des candidats à la présidentielle ont soutenu et continuent à soutenir Vladimir Poutine. C'est un sujet de fond. C'est un débat de fond. Et il faut redire, et moi je pense que la plupart des candidats ont intérêt à redire, et à redire que Marine Le Pen et Éric Zemmour soutiennent, ont soutenu le régime de Vladimir Poutine.
C'est pas comme ça.
Et se sont alignés idéologiquement sur sa vision du monde.
Non, on va faire des choses plus précisément.
Ça, il faut le dire, il faut continuer à le dire. Donc l'histoire des tracts, elle n'est pas anecdotique du tout. Non. Elle est très importante sur le fond.
Par ailleurs, je rappelle Marine Le Pen... En 2022, il y a eu un grand raout des leaders d'extrême droite d'Europe et elle a refusé de signer un paragraphe condamnant les actions militaires russes. Et ça, c'était en janvier 2022. Et ça, elle le paye politiquement aujourd'hui. Hein. Vous avez raison, Nicolas. Elle le paye. C'est des atermoiements qu'aujourd'hui, les Français se rendent bien compte. On voit bien dans les sondages la dégringolette de certains candidats parce que ils sont pas, excusez-moi, pour le coup, patriotes pour un petit peu caricaturer ces personnes.
Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous, avec Nicolas Corato, Thomas Elexhauser, Samuel Lafont et Fatima El-Ouazdi. Fatima, vous me disiez pendant la pub que c'est bien de rappeler que c'est le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire en ligne sur les listes électorales. Des millions de Français sont mal inscrits, parfois inscrits dans leur ancienne commune, pas à côté de chez eux et pourront pas voter. Donc inscrivez-vous en ligne et sinon, vous pouvez toujours vous déplacer dans votre mairie jusqu'au 4 mars. Et donc, pour vous inscrire, donc inscrivez-vous.
Apparemment, il y a du monde.
Apparemment, il y a du monde, oui.
C'est les retours que j'ai des mairies de mon territoire, il y a du monde qui se déplace et de gens qui viennent s'inscrire, je ne sais pas pour soutenir qui, mais il y a du monde.
Ouais, de nombreux candidats ont fait campagne, effectivement, pour l'inscription.
Aussi pour l'inscription, parce que voter est peut-être la meilleure manière d'exprimer votre mécontentement ou votre adhésion. Je voulais vous faire écouter Claude Malhuret, sénateur, hier, qui, comme à son habitude, a fait un discours qui était plutôt percutant. Écoutez ce qu'il disait à propos, et ça rejoint ce que vous évoquiez, Nicolas Corato, sur ces candidats qui ont soutenu Poutine. Ah, on n'a pas le son. Je croyais qu'on avait le son. Bah, on l'écoutera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous
faire mon coup de cœur, du coup.
Oui, bah, allez-y, faites votre coup de cœur.
J'ai un petit coup de cœur pour les 620 maires et autres élus de France qui ont accordé leur parrainage à Éric Zemmour, qui nous permettent aujourd'hui, qui permettent à Éric Zemmour d'être candidat à l'élection présidentielle. Je tiens à les remercier. Et j'ai un coup de gueule, moi, contre Bruno Le Maire. Contre le comportement de Bruno Le Maire. Moi, ce qui me subjugue véritablement, c'est qu'on a affaire en ce moment à des gens qui n'ont jamais donné un coup de poing de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est qu'un simple combat, et qui, en quelques mots, sont prêts à déclarer une guerre parce qu'ils ne mesurent pas leurs mots. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire, hier, a dû revenir sur ses mots, sur ses propos, où il déclarait une guerre économique à la Russie. Il a dit finalement que c'était un simple rapport de force. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même des gens qui sont incapables de se battre par ailleurs, qui ne comprennent pas l'idée du combat, mais qui sont prêts à engager des guerres sur le continent européen, en fait, à engager davantage la France, et qui, en termes de diplomatie, ne sont pas très mesurés. Et ça, c'est vraiment très dommageable pour notre pays, parce que la crise est compliquée. On sait que quand on sort du monde de l'enfance, on comprend qu'en fait, en diplomatie, il n'y a pas les gentils et les méchants, qu'il va falloir mesurer chaque mot et chaque pas pour arriver le plus vite possible, dans l'intérêt de tous, et d'abord des Ukrainiens, à la paix, paix en Europe. Et en fait, quand on a des mots qui sortent dans tous les sens et qu'il y a des sorties bellicistes dans ce genre-là, eh bien, on peut s'attendre à une escalade qui serait très rapide. Et d'ailleurs, je le répète, Bruno Le Maire a dû s'expliquer ensuite et dire que les mots qu'il avait employés le matin n'étaient pas des mots qui permettaient d'aller vers la désescalade qui est censée être décidée, choisie et voulue par le gouvernement Macron.
Alors, on va réécouter Bruno Le Maire, ce qu'il disait hier, et donc il est revenu sur ses propos, je le rappelle, mais réécoutons ce qu'il disait.
Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Nous avons donc préparé un train de sanctions qui sont en cours d'examen actuellement. Je pense qu'on aura les propositions de la Commission européenne ce matin. J'ai eu hier très longuement au téléphone la secrétaire américaine au Trésor.
Voilà, bon, c'était effectivement. Qu'est-ce que vous pensez du revirement de Bruno Le Maire, Thomas Elexhauser?
Moi, ce qui m'a interpellé, j'ai écouté en direct ses propos, c'était le prix à payer pour la population russe. Je pense qu'il y ait des sanctions qui forcent et qui visent certaines élites, certaines puissances oligarques russes à pousser Poutine à arrêter ce jeu ignoble, c'est indispensable. Je pense que dans ses propos, il a été maladroit. Il s'est repris dans la journée. Il a déclaré que ses propos étaient inappropriés, il me semble. Mais en effet, j'ai regretté la tournure de certains mots, puisque la population russe n'a pas à payer le prix spécialement de la situation dramatique que nous vivons et sur laquelle on va revenir tout à l'heure.
Nicolas Corato.
Oui, je pense que de toute façon, on est dans une phase où les mots ont du sens et vont alterner entre des mots extrêmement forts et violents et puis une diplomatie qui revient vous le disiez, enfin, on est dans une situation où on alterne les sanctions avec le dialogue. Mais je pense qu'il faut marcher sur ses deux jambes. Donc, je ne suis pas étonné ni du revirement, je ne suis pas choqué. En revanche, je suis un peu sidéré de l'argument de Samuel Lafont sur depuis quand est-ce qu'il faudrait que des hommes politiques soient aguerris au combat ou aient déjà combattu.
Ah, mais je vais vous expliquer.
Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Finalement, on a l'impression qu'on devrait porter au pouvoir, là, maintenant, des militaires. C'est ce que j'entends.
Ah, pas du tout.
Ou d'anciens militaires, ou de gens qui ont fait la guerre. Parce que, vous savez, pour faire la guerre, et notamment pour faire la paix, ça se fait moins avec des coups de poing qu'avec l'esprit. Et moi, je trouve qu'il nous faut plus, un peu peut-être plus d'intelligence, moins de démonstration de force. Je suis quand même assez étonné de ce champ rhétorique cette fascination que vous avez pour la force, absolument délirante dans une démocratie et qui me semble beaucoup plus proche de la fascination qu'exerce Vladimir Poutine plutôt que de la fascination que devrait exercer sur vous, qui est un démocrate, j'en doute pas, finalement, les hommes politiques que nous élisons. Et je pense que c'est assez grave, finalement, d'imaginer ou de... Vous voyez, parce que, par exemple, ça veut dire qu'une femme ne pourrait pas régler, qui a peut-être moins l'habitude de combattre que des hommes, c'est souvent comme ça sociologiquement, quoique, ne pourrait pas accéder à des hautes fonctions et représenter la France, y compris dans le Concert des Nations.
Je suis très étonné de votre argumentaire.
Je pense que vous êtes un peu à court d'argument, mais celui-là me sidère.
Ce qui est sidérant, en fait, c'est d'entendre des gens déclarer la guerre comme ça. On a un ministre...
C'est qui a déclaré la guerre? Est-ce que c'est M. Poutine qui envoie des troupes?
Mais ce n'est pas la même chose.
Pour une opération de maintien de la paix. Non, mais monsieur, on vous sait être assez poutinolâtre.
Mais arrêtez de dire n'importe quoi.
Vous êtes russophile depuis de nombreuses années, monsieur.
Il faut faire la guerre au peuple russe. Et effectivement, s'il ne s'était pas trompé, il ne serait pas revenu en arrière.
De fait, les sanctions économiques...
Même Bruno Le Maire a reconnu son erreur. Ce que vous ne comprenez pas, monsieur Corato, c'est qu'en fait, on a des gens... Ce que je vous explique très simplement, c'est qu'on a des gens qui ont du mal. Et c'est le cas du gouvernement Macron, parce qu'aujourd'hui, pour soutenir Macron, il ne faut pas comprendre la situation que vivent les Français en termes d'insécurité. On a des gens qui refusent de voir l'insécurité
sur
notre propre sol. On a des gens qui sont incapables.
Des gens qui sont incapables
de comprendre la situation que vivent tous les Français au quotidien, simplement quand ils sortent de chez eux, qui peuvent avoir peur, mais qui, dans le même temps, sont capables de déclarer la guerre à tout un peuple.
Mais Bruno Le Maire, hier, est-ce que c'est M. Poutine qui bombarde, c'est Vladimir Poutine qui est responsable de cette guerre.
Et Bruno Le Maire, hier, a fait une erreur. Et d'ailleurs, il n'aurait pas dû faire cette erreur.
Il a fait son erreur et il l'a reconnu.
Il a reconnu que les propos n'étaient pas les bons.
Vous êtes sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon, finalement.
Pourquoi ?
Bah, vous allez écouter. Je vais vous faire écouter ce qu'il disait hier à l'Assemblée nationale sur le côté va-t-en-guerre du gouvernement. Je vous le fais écouter dans un instant, juste après cette courte page de pub.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour parler évidemment de l'Ukraine, de la Russie, de la France également. On vient d'apprendre que Manuel Valls et Jean-Pierre Raffarin, deux anciens premiers ministres, rejoignaient Emmanuel Macron, le soutenaient pour l'élection présidentielle. Donc on verra ce soir comment le président de la République va gérer à la fois un discours sur l'Ukraine et la nécessité de dire qu'il est candidat. Ou alors, ça va être intéressant à voir. Ce sera ce soir sur toutes les chaîne à suivre, évidemment. Alors, l'Ukraine, la Russie, l'Europe entre dialogue et fermeté, c'est un peu un prolongement de notre débat avant la pub. Je vous disais, Samuel Lafont, que vous étiez sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il disait hier, c'était à l'Assemblée nationale.
Méfions-nous des solutions improvisées et des conforts de posture. Les moyens que nous employons ne doivent jamais pouvoir se retourner contre nous. Pourtant, je regrette que l'Union européenne ait décidé de, je cite, « fournir des armements nécessaires à une guerre ». Cette décision ferait de nous des co-belligérants. Un engrenage s'enclenche. Avec quelle légitimité? Quand notre Parlement l'a-t-il décidé? Pourquoi avoir rompu ce que le commissaire Borrell a lui-même qualifié de tabou de l'histoire de l'Union, à savoir ne jamais fournir d'armes à des belligérants.
Merci Valérie pour ce passage, parce que justement, dans les situations de crise comme ça, on voit qu'il y a des arguments qui sont transpartisans. Et on a vu de nombreuses voix s'élever en expliquant aux bellicistes qu'il fallait qu'ils se calment, parce qu'en fait, leurs mots auront des conséquences. Et effectivement, là, je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été dites, qui doivent être discutées. Si la France, il y a un choix à faire, si la France veut être indépendante et proposer une solution de paix entre l'Ukraine et la Russie, elle ne peut pas être directement engagée dans le conflit. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a un choix à faire. Et donc ça, il faut au moins qu'on puisse en discuter. Parce que s'il y a une excitation et qu'on sort de la rationalité pour engager la France davantage qu'on aurait souhaité qu'elle le soit, mais on peut en discuter, et bien derrière, c'est difficile de reculer. Mais il faut d'abord qu'on en discute et qu'on sache véritablement ce qu'on veut et quelle est la meilleure solution pour obtenir, encore une fois, la paix le plus rapidement possible.
Alors, je vous fais écouter la réponse d'une certaine manière de Nathalie Loiseau, qui était l'invitée ce matin du Grand Matin Sud Radio, ce qu'elle répond à Jean-Luc Mélenchon.
Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison. Je vous renvoie à l'interview de Madame Le Pen hier soir, qui dit la même chose, qui dit « Pas de livraison d'armes, ça ferait de nous des belligérants ». Je ne peux pas entendre Jean-Luc Mélenchon, qui était très content quand on aidait les Kurdes, dire qu'il ne faudrait, et qu'on livrait des armes aux Kurdes, qu'il ne faudrait pas livrer des armes à l'Ukraine. Je vais vous dire une chose, Jean-Luc Mélenchon, en 2015, après l'annexion de la Crimée, après la déstabilisation du Donbass par le même Vladimir Poutine, refuser de l'aide civile à l'Ukraine, refuser une coopération scientifique avec l'Ukraine au motif que c'était des néo-nazis. C'est le perroquet des Russes sur l'Ukraine. Je ne sais pas s'il est anti-Poutine, ce que je sais c'est qu'il est anti-Ukraine.
Alors, Fatima Loisy.
En fait, ce que M. Lafont a appelé des éléments de parole ou des pensées un peu transpartisanes, ça ressemble plus à des éléments de langage du Kremlin qu'à des éléments transpartisans. Parce qu'en fait, on voit bien que cette rhétorique qui veut et qui consiste à dire qu'on soutient la guerre sur le terrain, mais en fait, c'est pas tant qu'on soutient la guerre sur le terrain d'un point de vue, je dirais, idéologique, c'est qu'il y a eu une invasion de fait de la Russie et l'Ukraine a envie de se défendre. En fait, l'armée ukrainienne ou par exemple la résistance civile qui s'organise. On voit qu'il y a une société civile très forte qui se mobilise pour faire la guerre. Et moi, ce que je regrette, c'est de voir que malgré en fait cette guerre dont personne ne voulait, que personne ne soutient, visiblement, tout le monde appelle à la paix en disant « faut que ça cesse », etc. Mais à chaque fois, on justifie les actions du Kremlin en disant « non mais attendez, l'Ukraine l'a cherché en fait, il y a toujours cette culture de l'excuse. L'Ukraine l'a cherché parce qu'il voulait adhérer à l'OTAN, l'Ukraine l'a cherché. » En fait, c'était juste un prétexte. Tout ça, ce sont des prétextes. Quand on entend Pierre Servent, par exemple, spécialiste militaire, consultant sur ces sujets, et ce matin, j'écoutais encore une interview absolument passionnante, où il dit bien que tout ça, c'est des sujets à prétexte. Caroline Forest aussi le répète assez bien. Et on voit bien que, aujourd'hui, on est dans un espèce de point... On n'a pas une situation de point de non-retour, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir comment ça peut ça ne peut ne pas s'enliser davantage quand on voit que Kiev est sur le point d'être assiégé, etc.
J'ai écouté les déclarations de Mélenchon hier à l'Assemblée nationale. Il faut quand même rappeler qu'il y avait un débat hier et que les groupes parlementaires, M. Lafont, ont tous été consultés et se sont amenés à s'exprimer. J'entendais le mot belligérant. Je voudrais revenir là-dessus. Belligérant veut dire qui participe à une guerre. Sauf que aujourd'hui, l'Ukraine et les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien n'a pas déclaré la guerre à Vladimir Poutine. C'est une guerre qu'ils subissent. Et aujourd'hui, ce dont il est question, c'est de savoir quelle réponse on y apporte. J'ai trouvé que l'Union européenne avait donné un visage très fort le dimanche soir par la voix de Ursula von der Leyen quand elle a pris la parole au nom des 27 de manière totalement unie, y compris même la Hongrie, n'est pas allée contre la position de l'Union européenne dimanche soir. Et j'étais très fier d'être moi-même membre de l'Union européenne et pro-européen dans cette déclaration, parce qu'on voyait que l'Europe apportait une puissance. Et sur la livraison des armes, qu'il y ait des besoins de contrôler la destination, les moyens de livraison pour éviter, bien sûr, que ces armes tombent entre les mains des Tchétchènes ou tombent entre les mains des forces russes. C'est tout à fait normal. Et qu'il y ait du débat et que les oppositions s'expriment, c'est normal. Mais de là à accuser le peuple ukrainien, alors que le peuple ukrainien n'est que victime d'une invasion d'un acte de guerre qui s'est fait contre eux par un dirigeant européen dont M. Zemmour voulait une copie pour la France. M. Zemmour a quand même dit « J'espère un Poutine français ». On voit bien que là, le nationalisme qui est poussé à l'extrême apporte des conséquences dramatiques pour l'équilibre du monde. Pour l'équilibre du monde. M. Zemmour, c'est une phrase qu'il a prononcée « Je rêve d'un Poutine français ».
C'est vraiment le souci.
C'est une phrase prononcée.
Juste une chose, je parlais tout à l'heure d'émotion et de rationalité. Il faut qu'on revienne un peu à la raison, parce que sinon, c'est certain qu'on n'aura pas des escalades. Et là, vraiment, quand je vous entends, je n'entends pas la raison, je n'entends que l'émotion.
Alors, Nicolas Corato, sur ce qu'on a entendu, sur ces deux sons de Jean-Luc Mélenchon, oui, et sur le débat qu'on vient d'avoir.
Mais je pense que malheureusement, ça me fait mal de le reconnaître, mais je pense que M. Mélenchon est aveuglé par une vision géopolitique et par son combat contre la construction européenne, et que je pense qu'il fait une erreur politique en se positionnant comme cela. Parce que, comme le disait François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine mène une guerre nationaliste aux portes de l'Europe, en Europe. Et il faut dire les choses, c'est bien Vladimir Poutine qui menace aujourd'hui la sécurité des Européens et des Français y compris. C'est bien les Ukrainiens qui défendent aujourd'hui l'Union européenne. Parce qu'effectivement, nous ne voulons pas aller plus loin.
Dernier pays avant la Pologne. Hein.
Avant la Pologne. Et nous ne savons pas, personne ne sait, jusqu'où Vladimir Poutine pourrait aller. Il y a quand même en Europe une histoire. Alors, je ne veux pas faire un point Godwin trop facile, mais souvenons-nous de l'histoire des Sudètes. Hein, l'histoire des Sudètes, il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas qui voulaient justement pas l'escalade, qui ne voulaient pas être entraînés dans des belligérants. On a vu ce que ça a donné derrière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que c'est Vladimir Poutine qui mène une croisade sur des fondations chrétiennes d'ailleurs. C'est assez intéressant, avec beaucoup de références chrétiennes contre l'Europe. C'est l'Union européenne qui nous protège. Et j'ajoute une dernière chose. Heureusement que nous sommes dans l'OTAN. Et heureusement qu'en étant dans l'OTAN, nos alliés américains continuent à nous soutenir. Parce que je vous assure, on voit bien que c'est une épreuve quasiment vitale pour l'Union européenne, pour notre continent, pour notre façon de vivre, pour notre civilisation. Et s'il y a bien une question de civilisation, elle se pose aujourd'hui par rapport à la violation du droit international qui est en train de conduire M. Poutine en Ukraine avec ses crimes de guerre également. Donc voilà, la guerre de civilisation, elle se situe à la frontière entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui, et pas ailleurs.
Fatima, et puis après ça, je pourrais répondre. Ouais, Fatima Loisy.
Moi, ce que j'ai retenu, parce que vous avez cité Poutine, le Poutine français de M. Zemmour a aussi dit que c'était la Russie qui était agressée et non pas la Russie l'agresseur. Et c'est ça, en fait, qu'on retient des discours de M. Zemmour. La même gêne, on ressent aujourd'hui la même gêne du côté de Marine Le Pen. C'est pas vieux, il le dit, il le pensait. Et il le pensait déjà il y a plusieurs mois, alors que la guerre n'était pas encore déclarée par l'invasion russe. Donc voilà, moi ce que je partage un peu ce qu'a dit monsieur Corato en distanciel, et bien évidemment il nous appartient, monsieur le président de la République Emmanuel Macron en 2017, dans un discours à la Sorbonne, avait théorisé cette Europe de la défense dont on voit aujourd'hui qui prend contour du fait, alors qu'on en parlait pendant des années, etc. On disait, non mais l'Europe de la défense de M. Macron, ça n'a aucun sens, on n'y arrivera jamais, etc. Et finalement, c'est M. Poutine qui, par son action, est en train de consolider les premières bases. C'est historique, l'Allemagne va augmenter son budget de défense, qui n'était jamais arrivé depuis de nombreuses années. On assiste à une transformation de ce que doit être l'Europe de la défense, et ça, on le doit à M. Poutine, et c'est peut-être quelque chose qu'on peut lui remercier un peu.
C'est un sujet très intéressant, parce qu'avant de parler de cette hypothèse Europe de la défense, qui est un...
C'est pas hypothétique.
Qui revient systématiquement. D'abord, il y a la question des moyens. Effectivement, vous avez parlé de l'Allemagne, qui augmente considérablement son budget de la défense. Eh bien, la France doit également augmenter son budget. C'est ce que propose Éric Zemmour. Parce que concrètement, c'est pas quand on est en situation de guerre qu'on va commencer à mettre en place le budget pour essayer de recruter des soldats, pour acheter du matériel, pour développer notre industrie de défense. C'est maintenant qu'il faut faire le choix d'être suffisamment fort et indépendant pour ne pas avoir à se retrouver dans des situations où on devra défendre notre propre sol. Et ça se prépare maintenant. Donc avant même une question d'Europe de la défense, on peut très bien avoir des accords entre États européens pour se défendre. Et en plus de ça, on doit d'abord faire en sorte... Éric Zemmour a parlé de la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, qui n'est pas la sortie de l'OTAN, et c'est important de faire la distinction.
Quelle est la subtilité ?
Et c'est important de faire la distinction.
Quelle est la distinction ?
En gros, on ne suit pas directement tous les ordres de l'OTAN. Mais peu importe. L'idée,
donc
c'est qu'en fait...
Donc en fait, on y est sans y être.
Le
frontalier européen qui adhère en l'OTAN, ça veut dire que nous, on n'irait pas le défendre. C'est ça ce que dit
vous savez que le point important, justement, c'est qu'on est précis. On parlait d'armes tout à l'heure, par exemple. Quelles armes sont envoyées à l'Ukraine? Et c'est un véritable choix, ça aussi, qui est fait. Pour l'instant, ce que je sais, ce qui est envoyé, ce sont des armes plutôt anti-chars, donc des défenses, parce que les États qui aident l'Ukraine aujourd'hui veulent dire « Ok, on fait tout, on fait en sorte d'arrêter la Russie, parce qu'on veut arrêter la Russie pour arrêter la guerre le plus vite possible, avec des systèmes de défense. » Mais il y a une question qui a été posée sur des armes légères qui pourraient après circuler et revenir notamment en France. Donc, en fait, il faut être précis. Ce que je vous demande, en fait, depuis le début de cette émission, c'est, premièrement, qu'on sorte juste de l'émotion pour aller sur la rationalité et qu'on soit précis sur ce qu'on demande.
Parce que personne n'était le seul à rationnel.
J'ai pas
l'impression
qu'on soit complètement dans l'émotion.
Je pense pas que les quatre intervenants que nous sommes soyons hystériques ou soyons dans des positions déconvenues. Au contraire, nous avons réussi il y a quelques minutes à avoir un débat avec un peu de hauteur de vue. Ce que Samuel Lafond, vous ne dites pas, c'est qu'est-ce que vous apportez comme explication sur les propos de votre candidat à l'encontre du dirigeant russe. C'est celle-là dont nous parlions.
Je vous le dis.
Je me suis exprimé sur les armes ce matin. Nicolas Dupont-Aignan, autre candidat nationaliste qui était promis à être Premier ministre de Marine Le Pen en 2017, sera peut-être Premier ministre hypothétique de votre candidat, etc. On voit bien que tout ce camp finira peut-être par se réunir dans l'entre-deux-tours. Ce que j'appelle,
c'est
qu'on puisse... Non, c'est pas l'union de la droite, c'est l'union de l'extrême droite. Il n'y a pas d'union de la droite du tout. C'est l'union de l'extrême droite nationaliste. Et je répète, on voit où le nationalisme nous amène. Monsieur Poutine a voulu expliquer que l'Ukraine avait des racines qui étaient liées à son pays. Monsieur Poutine a voulu expliquer que son pays était de toute grandeur, que son pays n'avait pas besoin de vivre dans le commun des instances internationales et dans le respect du droit international. Et ça nous amène à l'invasion d'un pays de 40 millions d'habitants qui en plus est un des pays les plus producteurs en blé et qui demain aura des conséquences je pense très fortes
sur l'équilibre français partout européen
pour vous répondre très concrètement sur ce qu'a dit Éric Zemmour. C'est très clair, en fait depuis des mois il alerte sur le fait qu'il y a des enjeux géopolitiques entre la Russie, l'Europe, l'Ukraine et il essaie de se mettre à la place de chacun pour comprendre les enjeux, pour prévoir.
Mais visiblement... C'est
pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que ces propos qui étaient prêtés étaient vieux, parce qu'en fait, ils se mettaient à la place de chacun pour essayer de comprendre les enjeux, pour essayer justement d'empêcher le fait
qu'on arrive... C'est quoi la ligne de M. Zemmour aujourd'hui
Comment vous expliquez
pour vous c'est quoi l'a agressé aujourd'hui?
Mais Éric Zemmour l'a répété plein de fois.
Dites-le, j'aimerais bien vous entendre le dire, pas Éric Zemmour, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous n'êtes pas clair depuis le début de cette émission. Vous n'êtes pas
Éric
clair.
Zemmour a dit que Vladimir Poutine est l'agresseur, qu'il faut faire en sorte de mettre fin à la guerre le plus vite possible. D'ailleurs, Éric Zemmour, c'est le seul à avoir fait un meeting spécifique sur la paix à Chambéry, avec un grand discours sur la paix. J'invite tous les auditeurs de Sud Radio à aller voir ce discours, parce qu'il explique très concrètement comment on peut retrouver la paix le plus vite possible maintenant et préparer la paix pour le continent européen pour les années à venir.
Excusez-moi, Nicolas, et après je vous laisse parler, je suis désolée. Vous dites vous voulez retrouver la paix, mais quand vous critiquez tout à l'heure les propos de Bruno Le Maire, ce que vous dénoncez comme étant la guerre économique, aujourd'hui ce sont des armes de dissuasion économique, parce que oui, il faut mettre la pression sur l'intégralité de la Russie, que ce soit les oligarques, et malheureusement en cascading, ça tombe aussi bien évidemment sur la population, parce que quand le rouble est dévalué à plus de 40%, et bien sûr, les Russes, malheureusement, la population russe va perdre du pouvoir d'achat, va devoir acheter plus cher ses biens importés. Et ça, malheureusement, c'est un des moyens d'atteindre la paix. Je suis désolée, et on en a besoin.
On va y revenir dans un instant. Olivier nous dit, bien évidemment, vous êtes hystérique et partisan, militant émotionnel, vous n'évoquez pas tous les faits, et donc les exactions de l'Ukraine au Donbass, ça devrait faire partie du débat. Je crois que c'est ce que disait Claude Maluret, qu'on va réécouter tout à l'heure, ils disent on a réinventé le 8 mai. C'est-à-dire, je voudrais que vous m'expliquiez, que vous expliquiez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des exactions en Ukraine et que donc la Russie est dans son bon droit pour l'invasion. Moi, je voudrais comprendre ça, ce 8 mai. Évidemment, on l'a dit que l'Ukraine n'est pas qu'il y a eu de la corruption, que c'est un pays dans lequel il y a des milices, etc., etc., qu'il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté, sauf qu'il y a l'invasion tout de même d'un pays par un autre. Donc, je voudrais comprendre ce 8 mai. On marque une pause et on se retrouve dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi. Je vais vous faire écouter quand même Claude Maluret hier au Sénat.
Écoutez. Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef de cette cinquième colonne. Mais leurs dernières déclarations atteignent des sommets. Mélenchon le 18 janvier dernier, qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil, un pays lié à une puissance qui les menace continuellement ? Le Pen, mon point de vue sur l'Ukraine coïncide avec celui de la Russie. Zemmour, il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur, c'est Poutine l'agressé. Poutine est l'allié qui serait le plus fiable. Depuis que tout le monde a compris leur mensonge, ils ont réinventé le 8 mai. Ils condamnent, car ne pas le faire serait un suicide électoral, mais ils ne changent pas d'avis, tout est de la faute de l'Occident, surtout pas de sanctions et attention à la Troisième Guerre mondiale. Mélenchon, jeudi dernier, continue ses bobards, « Je n'ai jamais soutenu Poutine, jamais ». Le pire, c'est Zemmour, le trois fois condamné pour racisme, qui crache sur les résistants ukrainiens et sur les réfugiés, qui donne des leçons de patriotisme, lui qui, après s'être soustrait au service militaire, n'a pas hésité à se rendre samedi sur le plateau des Glières. Ses propos souillent les tombes des maquisards.
Voilà, bon, on va s'arrêter là.
On aimerait que Claude Malhuret nous parle des EHPAD, hein, d'accord ? Ça, c'est vraiment le bad buzz qui est en train de se prendre
en retour de flamme. C'est quoi le lien ?
Mais regardez sur Internet, beaucoup de gens en parlent, apparemment, il y avait des responsabilités dans les EHPAD, et on n'a pas beaucoup entendu faire des grands discours à l'Assemblée nationale, alors qu'on a vu, et là, c'est transpartisan, ce que vivaient nos anciens dans bien les EHPAD
en France. Oui, mais c'est pas la réponse. Nicolas Corato.
Pourquoi répondre par une attaque personnelle à des arguments de fond qui sont intéressants ?
Non, il fait des attaques personnelles.
Ce que montre Claude Malhuret, c'est quand même... Moi, je peux pas ne pas m'empêcher de penser à l'esprit munichois. Et ce que nous montre cette séquence aujourd'hui, c'est que vous nous avez bassiné les uns et les autres, pardonnez-moi de l'expression, depuis des mois, sur le patriotisme. Et en fait, les rois et les reines sont nus. Vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des nationalistes. Oui. Et ça fait toute la différence. Et je pense que le grand clivage de cette élection présidentielle, ce ne sera pas entre les populistes et les progressistes, comme l'imaginait Emmanuel Macron. Ce sera entre les nationalistes et les patriotes. Et je pense que les Français devront effectivement se poser la vraie question. Est-ce qu'on s'engage dans une voie où la nation française, finalement, s'aligne sur les positions idéologiques de M. Poutine et notre continent va à sa perte ? Ou est-ce que, patriotiquement, on resserre les liens sociaux, on resserre nos liens économiques, on resserre nos liens européens, on resserre nos liens avec nos alliés pour sauver notre mode de vie et donc notre civilisation ? Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le propos de M. Malhuret, c'est de montrer ce clivage et de revenir sur 6 mois, pardonnez-moi, mais de falsification de l'histoire et du monde dans lequel nous vivons. Moi, je pense que tous les gens qui ont acheté le livre « Le suicide français » devraient le demander le remboursement. Tout est faux. Tout est faux. Tout s'effondre. Toute la théorie de M. Zemmour est en train de s'effondrer. La réalité lui donne tort sur toute la ligne. Tout est complètement bidon. C'est pire qu'un bouquin d'Alain Minc.
Et je pense que vous serez pas capable de faire une distinction nette entre nationalistes et patriotes ici. C'est assez ridicule de vous entendre. Ce qui est certain, vous parlez des constats d'Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour a raison et soutenu par la majorité des Français sur l'insécurité, pour lutter contre l'insécurité. C'est le cas également contre l'immigration et c'est le cas également pour le pouvoir d'achat.
Vous avez raison, retournez sur l'immigration. La première chose qu'Éric Zemmour a dit...
La réalité, c'est que le pouvoir d'achat, juste aujourd'hui, il y a un risque pour les Français dont personne ne parle, c'est que selon comment évolue le conflit et selon la durée du conflit, il va y avoir des conséquences aussi pour les Français, notamment en termes de pouvoir d'achat. On en parle très peu.
Mais comme les Français sont patriotes, ils tiendront le coup, parce que ça fait partie de l'effort aussi que nous devons fournir collectivement.
Alors, peut-être je voudrais quand même qu'on dise quelques mots d'Emmanuel Macron, qui ce soir va s'adresser aux Français. Il a tweeté « Je m'adresserai à vous pour parler de l'Ukraine et de la Russie ». On attend toujours sa déclaration de candidature, Thomas Alexander. Est-ce qu'il peut le faire dans le même temps
Je pense que ça serait très maladroit de mélanger une adresse aux Français, puisque c'est un moment d'adresse, c'est un moment solennel, une adresse aux Français depuis le palais de l'Élysée sur une situation dramatique internationale, et sa propre candidature qui, je pense, a beaucoup tardé, et qu'il faudra qu'il fasse d'un autre moyen que l'adresse de ce soir. Mais je voudrais également revenir sur la semaine que nous avons vécue, puisque je voudrais quand même vous rappeler que lundi dernier, nous évoquions la possibilité d'un sommet de paix entre Biden et Poutine. C'était lundi dernier. Depuis, nous avons vécu 6 jours de conflit où des villes entières sont bombardées et où des chars par dizaines, voire centaines, déferlent sur un territoire indépendant. Et donc, je trouve que ce constat de cet appel à un sommet de paix qui était annoncé lundi dernier avec la situation que nous vivons aujourd'hui met quand même en lumière un 21e siècle très bousculé où aucun gouvernement ne peut être assuré de n'avoir aucune crise à gérer et où la stabilité du monde est plus que jamais bafouée par cette situation. Et je trouve que on parle beaucoup de ce contexte, mais on oublie la gravité qui fait qu'en quelques jours, l'ordre du monde a basculé. En quelques heures, l'ordre du monde a basculé. Et je voudrais vraiment qu'on se rappelle qu'il y a une semaine, on évoquait l'éventualité d'un sommet de paix et qu'une semaine après, nous sommes en train d'envoyer des armes pour aider un peuple souverain.
Voilà. Fatima Loisy, ce soir, ce sera l'Ukraine et la candidature ou ça vous paraît aussi compliqué?
Honnêtement, je ne saurais pas vous dire parce que ce qui est évident et ce qui va se passer, c'est qu'on aura, quoi qu'il arrive, une campagne présidentielle si le conflit s'enlise. On aura une campagne présidentielle qui sera bien tournée sur ce sujet de l'Ukraine et de l'invasion russe et qu'il appartient à tout le monde à ce que la démocratie puisse se tenir dans les meilleures conditions et qu'on puisse avoir des débats de fond sur des propositions différentes. Vous avez raison tout à l'heure, lors de votre coup de gueule, d'évoquer ce sujet. Je pense qu'il faut parler du pouvoir d'achat, je pense qu'il faut parler de l'éducation, de l'école, de la santé des Français, que ce soit la santé des femmes, par exemple, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, des sujets très concrets de société, puisque en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, notre modèle de société aussi est agressé par ce qu'on vit, et donc on doit aussi le défendre. Et ça, c'est ce qui me préoccupe plus que juste le moment où le président de la République va déclarer sa candidature.
Oui, Samuel Lafont.
Oui, la réalité, c'est qu'il serait souhaitable que Emmanuel Macron sépare les deux, un discours sur le conflit, une déclaration de candidature. Mais il peut très bien décider ce soir d'évacuer rapidement la question de la candidature, se dire je suis candidat et puis ne parler que de la crise en Ukraine. Ce que je pense important, c'est qu'effectivement, si le conflit s'enlise, on va vivre une élection présidentielle à propos du conflit en Ukraine. Et donc, il va être très important, puisque beaucoup de médias parlent essentiellement de ce conflit, d'aller voir directement les Français. Et c'est ce qui est en train d'être fait par les soutiens d'Éric Zemmour partout en France, avec du porte-à-porte. Mais c'est très important d'aller voir les Français un par un, chez eux, pour discuter avec eux, mettre en avant les propositions de quelques candidats que ce soit. Mais nous, on le fait pour Éric Zemmour. Évidemment, partout, pour pouvoir discuter d'autres choses et que les Français puissent se décider le jour de l'élection, du premier tour et du second tour, en ayant un maximum d'arguments et de propositions en tête.
Et Nicolas, vous pensez qu'il fera quoi ce soir ?
Je pense que d'abord, il n'est pas comptable de la situation. C'est-à-dire que c'est imposé. Vous savez que juridiquement, il n'y a pas besoin de se déclarer à l'élection de la présidence. Mais politiquement, c'est important. Moi, je pense que de toute façon, il ne peut pas faire autrement que de rassurer les Français sur la continuité. C'est-à-dire que s'il ne parle pas d'élection présidentielle, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a un impensé sur la tenue de cette élection. Moi, je pense qu'il faut qu'il rassure en se déclarant candidat et qu'il rassure donc sur le fait que cette élection présidentielle essentielle va bien avoir lieu. Je pense qu'il y a aussi ce sujet-là qu'il ne faut pas éluder. Est-ce que nous serons en capacité de mener cet élément démocratique ? Moi, j'y suis très favorable et je ne comprendrai pas qu'on le reporte de nouveau l'élection présidentielle. Mais effectivement, ce sujet se pose, il se pose au président de la République. Donc, je pense qu'il a un chemin de crête et de responsabilité très intense ce soir. Et moi, je pense qu'il faut qu'il rassure ses électeurs, nécessairement, mais plus généralement les Français sur le fait que on peut mener deux choses de front.
Merci beaucoup Nicolas Corato. On se retrouve demain et n'oubliez pas le Salon de l'Agriculture avec Philippe David et les Vraies Voix ce soir à 17h. Très bonne journée sur Sud Radio.